Chers auditeurs, bonjour. Nous, Réseau Sigil Diguène, éclaireurs et éclaireuses du Sénégal, réseau africain pour l'éducation et la santé, faisons partie d'un réseau d'organismes de la sous-région ouest-africaine dénommé Alliance Droit et Santé, dont l'objectif est d'améliorer le statut et la santé des femmes et des filles. Depuis septembre 2015, nous mettons en œuvre, en partenariat avec l'ONG Équilibre et Population, un projet intitulé « Mobiliser en faveur des droits et de la santé sexuelle et reproductive, une alliance pour les femmes et les adolescentes d'Afrique de l'Ouest ». Aussi, dans le cadre de notre campagne de mobilisation sociale Génération PF Ensemble Choisissons l'Avenir, l'Alliance a organisé un événement mobilisateur avec comme thème « Les obstacles d'accès à la planification familiale pour les jeunes au Sénégal ». Je vous invite à suivre le débat.
Tous vous remercier d'avoir fait le déplacement, de participer à cette rencontre. Mon nom, c'est Abdou Salam Fall, je suis professeur de sociologie à l'IFAN, l'Université Cheikh Diop de Dakar. Nous allons avoir des panélistes qui sont autour de la table. Notre sœur, Khadijatou Talcham, qui est une spécialiste des questions de santé de la reproduction et qui actuellement dirige le groupe d'études pour l'enseignement de la population, le GEP. Madame Djoumodjouf Ndiaye, qui représente la direction de la santé de la reproduction et de la survie de l'enfant. Notre sœur Djalikatou Diallo, qui représente le mouvement d'action des jeunes dans le domaine également de la santé de la reproduction. Ensuite, Madame Ndeymarem Fall, qui pendant de nombreuses années a dirigé l'association des sages-femmes du Sénégal avec beaucoup de brio. Et maintenant, on va terminer avec notre sœur Binta Sarr, qui représente la société civile. Voilà, merci beaucoup. Donc, chers panélistes, madame, monsieur les participants, avant de poursuivre nos travaux, nous allons lier l'utile et l'agréable. Axela, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Un hommage aux femmes. On vous cède la parole aussitôt.
Bonsoir tout le monde. Je suis très honorée aujourd'hui d'être invitée ici. Je viens de sortir un EP 4 titres que j'ai intitulé Axila Femmes d'Afrique, en hommage à toutes les femmes d'Afrique, mais spécialement aux femmes du Sénégal, et dans le cadre de ma chanson « Les femmes rurales qu'on oublie souvent ». Cette chanson s'appelle « Mousseau ».
Solo, solo, hanga wuli kele wuli la. Solo, solo, hanga wuli kele wuli la.
Femmes d'Afrique, ouvrons la voie. Enfanter ne vaut pas le mépris. N'ayons pas peur, qu'importe le prix. Nos entrailles suturées portent le fils ingrat, fruit de devoirs sans droit. Femmes d'Afrique, levons la voix. Nos éloges se font dans les chants écrits. Pourtant, la réalité reste, pleure et crie. Ils nous calment avec des lois futiles dans leurs assemblées mal inutiles. Nous voulons la reconnaissance, mais selon nos compétences, affirmons-nous sans repentance. Allons à la quête du savoir, c'est la clé de notre victoire. Nos bourses pleines de sueur, nous avons la force du tueur. L'hyène plus forte que le lion guette les lionceaux. Lève-toi, belle dame tragique, au beau matin d'Afrique. Nous gardons nos soutiens-gorge à la compassion maternelle. Mais les jours sombres viendront quand nous serons en grève. Les casseroles vides, les gourdes sèches, les draps défaits, les encens froids, finis les nuits douces et sensuelles, quand nous serons en guerre froide. Merci, c'était Mousseau.
Merci beaucoup. Merci, Axila. Axila Diop, je demande qu'on applaudisse très fort. Axila, merci. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer nos échanges, d'ailleurs, nos échanges ont commencé avec les messages forts qu'on a entendus d'Axila Diop. Nous allons maintenant écouter une histoire. L'histoire d'Ami, Ami qui a 23 ans. Mais si on revient juste en arrière, lorsqu'elle avait 19 ans, à la suite d'un rapport sexuel non protégé, Ami, qui était alors en classe de terminale, avait décidé dès le lendemain de se rendre au centre de santé Garga, où elle échapperait aux indiscrétions dans le but de se procurer un produit contraceptif d'urgence. L'histoire d'Ami qui va nous être contée.
Je m'appelle Ami. Il y a 4 ans, après un rapport sexuel non protégé avec mon copain, j'ai pris la décision de me procurer la pilule du lendemain pour ne pas tomber enceinte. J'étais en terminale et je devais préparer mon bac. Cette nuit d'octobre était très, très longue. J'étais donc sur pied dès 7 heures du matin. Je ne voulais pas faire de bruit pour alerter mes parents. J'avais l'habitude de me réveiller tôt quand même. Mon absence pendant cette matinée pouvait passer inaperçue, d'autant que c'était pendant l'année scolaire. Je me rendais au centre de Garga, situé dans la périphérie de ma commune. Mais il fallait que je le fasse, parce qu'il n'était pas question d'aller au poste de santé de mon quartier, où tout le monde connaissait tout le monde. À la porte du centre, mon attention a été attirée par cette innombrable foule qui faisait la queue pour acheter des tickets de consultation. Pour être plus discrète, je m'approchais du portail pour parler à l'agent qui réglementait l'entrée des véhicules. « Bonjour monsieur, » lui dis-je. « Où se trouve... Devant mes hésitations, il me rétorqua. « Parlez ou allez-vous-en, j'ai du travail moi. » Alors l'enthousiasme qui m'habitait depuis le matin fit place à un découragement. Et au même moment, une voix retentit d'un véhicule qui sortit du centre de santé. « Ami, ami, que fais-tu ici ?» « Tu es malade ? Et ta mère ? Comment va la famille ?» C'était Tante Maggie, une amie de ma mère. Devant cette surprise incalculée, je lui répondis. « Tante Maggie, non, je vais bien. En fait, je suis tout simplement ici pour une visite médicale pour le bac. Oui, c'est ça, une visite médicale pour le bac. » Après 2 minutes, elle poursuivit son chemin. Et moi, j'étais perplexe devant le centre de santé. Alors le découragement que je ressentais fit à son tour place à une angoisse. Et si Tante Maggie en parlait à ma mère? Après son départ, je fis la queue pendant une dizaine de minutes, en ressassant dans ma tête toutes les éventualités possibles. Une fois à l'intérieur du centre, j'ai poireauté pendant plusieurs minutes, dans l'espoir de trouver une indication sur le service de planification familiale. Puis je tombe sur une femme visiblement plus âgée que ma mère, à qui je demande. « Bonjour madame. « Je cherche le service de planification familiale. » Elle me répondit catastrophée. « Planification familiale ? Ma fille pourra faire, à ton âge ? Ah, les filles d'aujourd'hui. »« Non, madame, » répondis-je. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis élève et je dois faire un exposé de classe sur le thème. » Elle me regarda fixement pendant 3 secondes et me fit un geste du doigt en me disant « Bon, c'est là-bas. » L'angoisse grandissait davantage et je venais de mentir une seconde fois pour avoir l'information. Je pris à nouveau mon courage pour me diriger vers l'entrée du pavillon, car il n'est pas question que je tombe enceinte. Il me faut cette pilule. Oui, il me la faut. Devant la porte, j'ai trouvé que des femmes. Aucune fille de mon âge n'était assise sur le banc. Je restais à nouveau posée là, en attendant mon tour. Quand j'ai ouvert la porte, là encore, c'était une femme de l'âge de ma grand-mère qui était devant moi. Asseyez-vous, ma fille. Là aussi, j'eus droit à un véritable interrogatoire de police avant de m'entendre dire « Allez chercher ça à la pharmacie du coin ». J'ai été découragée cette fois-ci. Découragée, d'autant plus que dans cette petite bourgade, tout le monde se connaissait et allait à cette pharmacie. Alors, j'ai pas pu y aller de peur d'y rencontrer quelqu'un qui me connaissait. Après tout, je venais d'y rencontrer fortuitement ma tante Maggie. J'ai décidé alors de laisser tomber et de prier fort, très très fort, pour que ce rapport inopportun ne suive pas une grossesse. Sur ce, je retournais sur mes pas. Une fois arrivée dans mon quartier, il faisait presque 13 heures. Mais je me suis fondue dans le groupe d'élèves qui revenaient du lycée pour rentrer à la maison comme si rien n'était. Quelques mois après, à la suite d'un malaise, le diagnostic tombe tel un couperet. J'étais enceinte. Nous étions au mois de février déjà. Cette année-là, je n'ai malheureusement pas pu faire mon bac. J'ai porté la grossesse à terme en quittant momentanément l'école. Et figurez-vous, mon enfant Salif est né le jour de la proclamation des résultats du bac. Mes camarades de classe avaient leur bac, et moi, je venais d'avoir un enfant. Par la suite, je devais m'occuper de mon enfant et reprogrammer le bac l'année suivante. Fort heureusement, à force d'abnégation et de courage, j'ai eu mon bac à 20 ans avec la mention. Aujourd'hui, je suis étudiante en troisième année à l'université. Et parallèlement, je fais partie d'une association dénommée Lumière, qui milite en faveur des droits sexuels des ados. Alors si j'ai tenu à raconter ici les différentes péripéties de mon histoire, ce n'est point dans un but anecdotique. Il ne m'est pas non plus venu à l'esprit de vouloir faire le procès de ma société ou de nos services de santé, mais juste pour inciter à repenser la communication autour de la planification familiale pour les jeunes. Je veux juste que mon histoire serve de révélateur de tout ce que vivent les jeunes devant de telles situations, en termes de découragement, de crainte, de jugement de valeur, de critique et d'insinuation qui peuvent avoir des conséquences le plus souvent dramatiques.
Merci beaucoup pour cette histoire qui nous replonge au cœur de nos débats. Nous allons tenter de l'organiser en deux étapes. D'abord, recueillir vos commentaires sur les facteurs qui sont les obstacles majeurs pour la planification familiale dans notre société. Et ensuite, savoir parmi ces facteurs, quels sont les facteurs les plus déterminants. On va peut-être commencer par vous, les autorités publiques.
Merci. En écoutant l'histoire d'Ami, nous nous rendrons compte que quand même il y a des obstacles, je peux dire même à trois niveaux. Il y a d'abord au niveau peut-être des parents ou de la communauté, Ami n'a pas eu une personne de confiance à qui se confier. Deuxièmement, quand elle a pris le courage et la bonne décision d'aller vers une structure de santé, malheureusement, elle a été confrontée à des obstacles. Le premier obstacle, c'est que le circuit n'était pas défini. Elle s'est perdue dans la structure, elle ne savait pas à qui s'adresser, il y avait l'indisponibilité de l'information, il n'y avait pas de confidentialité, il y avait l'absence d'indication pour savoir les services de planification familiale, il n'y avait pas la confidentialité, elle fuyait la stigmatisation ou la reconnaissance par rapport à ses parents ou aux personnes qui pouvaient aller parler avec sa maman. Et en ce sens, il y a nos barrières socioculturelles qui bloquent tout cela parce que, avec les ados quand même, si on avait eu à mettre en place des services de santé adaptés aux ados jeunes, peut-être elles n'auraient pas ces problèmes. Parce que le service n'était pas adapté à ses besoins. Parce que pour que le service soit adapté à ses besoins, il fallait que le circuit soit défini, il fallait qu'il y ait des panneaux d'enseigne signalisation, il fallait qu'il y ait peut-être une personne qui pourrait l'introduire, qui servirait de biais avec les prestataires de services, ou bien alors qu'on puisse les prendre en compte avec une bonne écoute, avec un bon accueil, au bon moment, parce qu'elle a besoin de ça, avec de bons conseils, avec quand même un bon prix et avec cette série de bons qui doit répondre aux services de santé adaptés aux adolescents. Mais malheureusement, elle a été confrontée à la stigmatisation, elle a été confrontée à une mauvaise organisation des services et elle était confrontée aussi à un manque d'information de qualité.
C'est Khadija Toutal Thiam, groupe pour l'étude et l'enseignement de la population, le GEP. Moi, je dirais, à travers, disons, le récit de Ami, moi, je suis jeune, hein, parce que je travaille avec les jeunes, je n'ai pas plus de 17 ans, donc je suis toujours avec vous. Donc, moi, je réfléchis en jeune et je dirais que nous, les jeunes, les services ne sont pas du tout adaptés pour nous, les jeunes. C'est ce que dit Ami, en fait, et c'est ce que dit Madame tout à l'heure, en disant avec les différents circuits qu'elle a eu à faire, elle n'a rien trouvé d'adapté pour la jeunesse. Et ce qu'on constate aussi, c'est que même les prestataires de services ne réagissent pas en fonction de cette cible-là. On n'essaie pas de la comprendre ou de la rassurer. On n'essaie pas de voir non plus quels sont aussi ses besoins à elle. Donc, nos besoins, nous, les jeunes, ne sont pas pris en compte. Quels sont les obstacles aussi? C'est en matière d'information, nous n'avons pas les informations qu'il faut. Et là, qu'est-ce qui va arriver? C'est tout simplement une grossesse précoce, une grossesse non désirée. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dramatique pour une fille qui va à l'école. Et ça pose toute la question de l'éducation des filles et du maintien des filles à l'école. La chance qu'elle a eue, c'est qu'elle a pu sortir à un moment donné, et ça c'est la circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui date de 2007, qui fait qu'on sort la fille pour un moment et elle peut retourner à l'école. Elle a eu la chance de pouvoir retourner à l'école et de pouvoir poursuivre ses études. Et ça n'arrive pas toujours à tout le monde. Mais ce qui ressort surtout parmi les éléments bloquants ici en ce qui concerne la planification familiale, c'est aussi le manque d'informations au niveau de l'école. Si elle avait l'information au niveau de l'école, déjà, dans ses cours, etc., il n'y aurait pas eu ce comportement de sexualité à risque. Je pense qu'elle aurait pu se protéger, elle aurait dû au moins amener son partenaire à la protéger davantage. Ça, c'est dingue. Et donc, ça montre aussi le manque d'éducation sexuelle au niveau des établissements scolaires. Ça, c'est extrêmement important et il faudrait que l'on voie comment remédier à tout cela. Autre élément bloquant aussi, c'est tout l'environnement socioculturel. Tout l'environnement socioculturel ne favorise pas l'accès des services à la jeunesse. Mais surtout pas les jeunes, parce que le jeune peut avoir 20 ans, 25 ans, mais surtout l'accès des services aux adolescents et adolescentes. Et ça, c'est très grave. On ne leur enseigne pas, on ne leur donne pas les informations au niveau scolaire, donc dans les programmes scolaires, ou très peu, ou c'est très distillé dans les cours de sciences et vie de la terre, très distillé dans les cours d'économie familiale et sociale, et très distillé aussi dans la littérature. Donc, on n'a pas quelque chose de vraiment très soutenu au plan scolaire pour pouvoir accompagner les adolescentes et les jeunes. Et donc, ça, c'est un problème. Et le niveau culturel, à la maison, comme elle l'a dit aussi, il n'y a pas eu cette écoute, comme elle l'a dit, il n'y a pas cette écoute au niveau familial, et c'est ça qui pose aussi un problème. Et nous, les jeunes, quand nous voulons parler à nos parents, c'est très difficile. La communication parents-enfants est très difficile. Et ce qui reste tout simplement, c'est aussi la communication, disons l'information par les pairs, mais quelquefois cette information aussi est biaisée. Donc le plus gros problème à mon niveau, c'est la question de l'information et les services adaptés aux jeunes. On peut retravailler l'environnement socioculturel, mais ça aussi c'est encore très difficile. Voici les éléments bloquants que moi j'ai identifiés, mais aussi l'engagement politique et les financements. Elle a soulevé un peu la question des prix, mais il y a aussi la question du financement de la planification familiale pour les jeunes. La pilule du lendemain, est-ce qu'elle est suffisamment disponible? Est-ce qu'elle a un coût pas très élevé pour que nous, les jeunes, on puisse l'avoir facilement? Moi, je dis toujours nous, les jeunes, parce que si moi, je n'ai que 1000 francs, est-ce qu'avec mes 1000 francs, je peux faire tout ce dont j'ai envie? Merci.
Merci, madame.
Merci beaucoup, madame Nia Aminata Diallo, sage-femme. Je ne reviens pas sur ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord. Je pense que d'ailleurs, l'éducation doit commencer au sein de la famille, avant même d'arriver à l'école. C'est à nous, parents, de parler à nos enfants et d'éduquer nos enfants. Mais dans notre société, combien d'entre nous ici ont été briefés par leurs parents, par leur maman ou par leur papa? Quand nous avons fait une étude avec l'OMS, nous avons vu que les jeunes filles ne parlaient pas à leur maman. Il y avait 1 à 2% de jeunes qui parlaient à leur maman. Il y avait 1% de jeunes qui parlaient à leur père, leur papa. Donc ces jeunes parlent entre eux et ils ne connaissent pas grand-chose. C'est ça le problème. Ou bien les jeunes filles parlent à des hommes qui ont l'âge de leur père ou de leurs oncles et qui ne leur disent pas le plus souvent l'information vraie, essentielle pour l'aider à éviter une grossesse non désirée. Je pense que nous savons actuellement ce que nous vivons, c'est la pilule du lendemain. Nous voyons que tous les jours, les jeunes sont au niveau des pharmacies puisque la vente est libre pour se procurer la pilule pour ne pas tomber en grossesse. Donc nous avons vu que nous avons beaucoup de choses à faire en matière d'information, en matière d'éducation. Donc Ami a été vraiment confronté à tout ça avant même d'arriver au niveau de la structure. Au niveau de la structure, il nous faut des prestataires qualifiés. Elle n'a pas vu de prestataire qualifié. Quand je dis prestataire qualifié, c'est une prestataire qui est là, qui sait comment recevoir, qui sait comment parler, qui ne juge pas, qui ne fait pas la morale. Donc c'était ça que je voulais dire pour le moment en attendant les autres obstacles.
Merci beaucoup. On va continuer sur les sages-femmes.
Je suis en phase avec ce que mes sœurs ont dit. Moi, je dirais que ces jeunes, notamment cette amie, a été victime d'inégalité sociale, si je peux l'appeler comme ça, de santé. Parce que tout simplement, il y a toute une absence de programmes destinés aux jeunes, notamment par rapport à nos structures de santé qui ne sont pas adaptées, comme ils l'ont dit tantôt. Par rapport au programme d'éducation qui, aujourd'hui, je crois que si Ami avait reçu une certaine éducation, que ce soit au niveau familial, comme ils l'ont dit, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit entre jeunes, comme aujourd'hui, il y a les jeunes ambassadeurs qui échangent à travers les réseaux sociaux, je crois qu'elle aurait eu cette information et ne pas tomber enceinte. Mais fort heureusement qu'elle, elle a pu quand même, comme l'a dit Chantal, elle a pu quand même reprendre ses études et avoir son bac et aujourd'hui porter le flambeau des jeunes. Parce qu'elle est là aujourd'hui dans une association nommée Lumière qui quand même aujourd'hui lutte contre cette discrimination faite aux jeunes. Donc cette absence de programme aussi est une absence de politique, je peux dire. De politique destinée à ces jeunes. Il faut qu'on mette en place des cadres qui permettront aux jeunes aujourd'hui d'avoir des cadres adéquats, adaptés par rapport à la réponse à leurs besoins. Ils ont leurs besoins, ces jeunes. Il faut qu'on trouve une réponse à ces besoins qui se traduisent en besoins non satisfaits, si on peut l'appeler ainsi. Je me rappelle quand j'étais jeune sage-femme, j'étais en salle d'accouchement, toute jeune, insouciante. Peut-être que je ne savais même pas. Je n'avais même pas les informations qu'il fallait pour aider une jeune ou en tout cas une adolescente qui est en situation. Je vous raconte une jeune qui était venue, elle avait fait un avortement. Je suis aujourd'hui avec un médecin, lui aussi peut-être s'il m'entend parler, il va se souvenir de beaucoup de choses. On avait porté des jugements de valeur par rapport à cette adolescente qui était là, enceinte, qui perdait du sang, hémorragie. Alors nous, ce qu'on trouvait à dire que « Samoromi, bini dem di foyo, ngay foyeli », je ne le dirai plus parce que j'ai grandi en information. J'ai eu quand même à avoir beaucoup de recul qui m'ont permis aujourd'hui d'être parmi ces jeunes. Et pour vous dire que je suis tellement intéressée par le programme des jeunes que j'ai eu à faire 2 mémoires sur les grossesses des adolescentes, leur issue, pour vous dire tout simplement que même à 12 ans, elles ont eu à être victimes de grossesse. Parce que quoi? Elles sont stigmatisées. Parce que quoi? Elles sont jugées. Parce que quoi? Elles trouvent dans les rangs de consultation des personnes qui sont plus âgées qu'elles. Des personnes qui sont peut-être une mère, une tante, comme l'a dit Ami, qui peut porter un jugement de valeur. Donc, vraiment, je ne vais pas trop me monopoliser la parole, mais on va revenir sur les axes stratégiques qui nous permettront aujourd'hui de juguler tous ces problèmes. Je vous remercie.
Merci Binta. Donc, je m'associe à tout ce qui a été dit, mais je pense qu'il y a des choses qui ont évolué. Qu'on se dise la vérité de notre temps. Nous, en tant que sage-femme, on n'avait pas l'information qu'il fallait pour adresser le problème de la sexualité des jeunes. Actuellement, dans tous les curricula de formation des sages-femmes, des infirmiers et tous les paramédicaux, nous trouvons au moins des modules qui nous permettent d'adresser la question. Donc, je pense qu'il y a l'évolution. Et maintenant, quand je reviens au niveau des obstacles, nous avons, si on regroupe les obstacles liés à cette histoire, nous sommes dans les valeurs culturelles, nous sommes dans ce qu'on appelle tout ce qui est socioculturel, comme disait Madame Thiam, Nous avons des obstacles liés aux institutions. Et quand je parle aux institutions, c'est en fait la structure, mais le personnel qui travaille aussi dans la structure. Nous avons aussi l'absence de communication parentale. Et comme disait Ami, excusez-moi, la première fois où j'ai vu mes ménarches, je me suis adressée à ma tante, je n'étais pas avec ma mère. Elle m'a dit tout simplement, va prendre un morceau, tu le mets, parce que tu vas saigner. Et j'avais tellement peur parce que je ne connaissais pas ce que c'était les règles. Je termine de mettre mes morceaux, après je viens pour prier. Il me dit, mais toi, tu es folle. Quand on est en règle, on ne prie pas. Maintenant, si un homme te touche, tu vas être enceinte. Alors, c'était une frousse, une peur bleue. Parce que toucher, on peut faire comme ça, toucher, n'est-ce pas? Alors qu'elle n'entrait pas dans le vif du sujet, alors que toucher, c'était les rapports sexuels, mais nous, on ne savait pas. Donc, vous voyez le type d'éducation que nous avions. Est-ce que c'était la meilleure? Pas du tout. Il faut informer. Informer juste. Et ce qui a été aussi dramatique, c'est qu'au niveau des prestataires, jadis, les enquêtes de 86 montraient qu'en fait, nous les prestataires, on était des obstacles par rapport à la prise en charge des ados jeunes. Vrai, parce qu'on jugeait les jeunes comme nos enfants. On avait tendance à dire, yo, motogo sax bay xam yi, warago xam yi, etc. Mais maintenant, les choses ont vraiment changé. Et ce qui est positif, c'est que cette fille-là, elle a eu l'intuition d'aller chercher la contraception d'urgence. Donc, nous devons encore éduquer les filles par rapport à ça. Mais ici, dans ce contexte, il faut se dire que nous avons cette connaissance de la jeune fille. Ce qu'il y a, c'est que pour accompagner un peu et renforcer ce que disaient mes prédécesseurs, il y a une méconnaissance des services. Le Sénégal, le ministère de la Santé prône l'intégration des services. J'ai dit, Madame Thiam, depuis quand on a les CCA et autres? Depuis quelle année? Depuis 90. Est-ce que depuis 90, la santé sexuelle et reproductrice des ados s'est portée mieux? Elle va mieux dans un sens, mais je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il fallait qu'on éduque, nous, les prestataires, les populations pour un meilleur accueil dans les structures, parce qu'on n'a pas toujours les CCA, l'accès aux CCA. Donc, l'attitude des grandes personnes, les grandes personnes, moi je suis une grande personne, je suis cultivée, mais parfois je fais des jugements de valeur. Alors qu'on ne doit pas faire des jugements de valeur. Le contexte de la consultation en PEF aussi est un facteur. Le contexte, quand on n'est pas dans les CCA, on est dans un PPS où tout le monde vient. Si on a l'intégration des services, on ne sait pas si elle va en PEF, à la consultation prénatale, à la maladie ou autre chose. Donc c'est un point à améliorer si on veut continuer. L'attitude des prestataires, je ne reviendrai pas, mais il y a la non-disponibilité du service. Imaginez cette fille malheureuse qui va chercher la contraception d'urgence. Et ce qu'on assiste, Diouma ne va pas me contredire. Le Norlevo arrive à expiration dans tous les PPS. Elle, par malchance, elle ne trouve pas le produit là-bas. Et elle a peur d'aller. Donc, il y a aussi la non-disponibilité des services à temps voulu. Il y a aussi la peur de se découvrir. Mais surtout, il y a un point essentiel. C'est l'accueil. La communication interpersonnelle. Comment accueillir? Comment, en tout cas, amener la personne à exprimer son besoin sans le heurter, sans le frustrer, avec une communication verbale et une communication non-verbale adéquate. C'est là le problème. Merci, en attendant.
Merci. On va voir si les jeunes, comment les jeunes, les plus jeunes du moins, vivent ça.
Voilà, donc merci beaucoup. Je m'appelle Djali Kato Diallo. Je suis juriste de formation et là, je suis championne de l'Alliance et en même temps présidente nationale dimanche au niveau du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest francophone. En écoutant tout à l'heure le témoignage de la jeune fille, ce que je me suis demandé au fait, c'est où elle avait pris l'information par rapport à la PF. Est-ce que c'était à l'école? Est-ce que c'était via un père? Est-ce que c'était dans le milieu familial? Est-ce que c'était à la télé, à la radio? Je me suis posé la question. Où est-ce qu'elle avait entendu parler de la planification familiale? Je pense qu'il y a l'aspect de l'accueil qui est vraiment problématique. Il y a vraiment une stigmatisation qui n'est pas trop justifiée par le personnel qui est au niveau des services. Ce n'est pas parfois les services cliniques qui ne sont pas adaptés, mais c'est l'accueil qui n'est pas adapté pour les jeunes. Parce que dès que tu mets les pieds, déjà on l'a vu, elle voulait déjà avoir un service. Déjà, elle est frustrée au niveau de la maison. Elle est frustrée au niveau du quartier. Elle a fui le quartier pour aller chercher un service ailleurs. Elle est frustrée à l'accueil. Elle est frustrée même par le regard des gens qui la voient juste venir à la clinique. Parce qu'on est censé aller à la clinique quand on est malade. Et un jeune qui est malade, en principe, il y va avec ses parents. Donc, une jeune fille comme ça, qui vient dans un service déjà, pourquoi les gens sont là à se poser des questions? C'est normal des fois parce qu'on est trop protecteur aussi quand on voit l'enfant de notre soeur, de notre ami ou de juste d'un voisin, de demander si elle est malade. Est-ce que tu es malade? Au moins, elle est où? Parce qu'on se dit un enfant malade, forcément un parent veillant doit l'accompagner à l'hôpital. Ça, c'est une des valeurs africaines qu'on respecte beaucoup, qu'on admire parce que c'est réconfortant. Parce que si elle était malade quand même, elle aurait sans doute voulu qu'on lui demande si elle va bien. Et ça, quand même, nous l'avons, c'est des valeurs africaines qui nous sont propres, mais parfois, elles sont vraiment frustrantes. Surtout dans ce cadre-là. Et vraiment, bon, c'est un couteau à double tranchant parce qu'on n'était pas censé savoir, en fait, qu'elle était venue pour un service PF. Cette jeune fille, si sa maman avait l'habitude de parler avec elle, elle aurait senti la frustration de sa petite. Il y a une certaine proximité. Si on l'a avec son enfant, forcément, quand il arrive une certaine frustration à l'enfant, là, automatiquement, on peut le savoir. On reconnaît que les mamans sont très occupées maintenant. Mais quand même, on se dit, l'enfant, à cet âge-là, ne doit pas avoir de rapport sexuel. Parce que au temps de nos mamans, elles ne savaient pas. Mais là, maintenant, à 6 ans déjà, même dans les dessins animés, on voit des scènes quand même qui appellent à un certain comportement sexuel. Donc aujourd'hui, quand même, manque d'informations au niveau des jeunes, l'accueil au niveau des services et aussi le jugement des valeurs des parents qui réfléchissent tout le temps à notre place. Quand même, c'est des obstacles en mettant maintenant en rapport avec ce que les autres.
Merci beaucoup. Merci. Nous ne voulions pas penser à votre place, mais on peut quand même dire que les obstacles persistent. Et parmi les obstacles, vous avez indiqué fort pertinemment deux types d'obstacles. Les obstacles d'ordre socio-culturel et les obstacles liés au service.
Pour moi, ce qui est important, c'est de donner l'information, toute l'information.
D'accord.
Et donc, l'éducation voilà. Donc, à la santé sexuelle.
Merci beaucoup. Alors, donc, l'information vraie, n'est-ce pas? C'est de part et d'autre. Alors, mais ça nous permet de débattre. Alors, qui veut poser des questions ou réagir? Je vais prendre 3-4 communications. Alors, monsieur le maire.
Merci beaucoup et je voudrais vraiment me féliciter de la tenue de ce panel. Vraiment me féliciter aussi de l'invitation qui nous a été faite en tant que collectivité locale. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système de gouvernance lié à l'octroi de la décentralisation où la santé est devenue une compétence transférée depuis presque 96. Et nous avons obligation aussi en tant que collectivité locale d'accompagner cette politique de l'État, surtout en matière de planification familiale. J'ai été très séduit une fois à Pékin Nord qu'il y a un programme de planification familiale porté par une collectivité locale. Ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, moi je situe l'obstacle au niveau de la gouvernance sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne reste pas encore un système beaucoup plus approprié d'impliquer davantage les populations à la base à cette question. En termes de mobilisation sociale, en termes d'accompagnement, en termes de communication, en termes d'information. Si on a un bon accès aux services, on peut juguler cette question de réalité socioculturelle. Arriver sur place dans un centre de santé ou bien dans un poste de santé, une maman ou bien une sage-femme peut régler cette question qui n'a pas été prise au préalable au niveau de la société en communiquant, en informant, en gérant même cette question. Moi, je pose le problème en ces termes. C'est un problème aujourd'hui de gouvernance sanitaire. Essayer de faire de telle sorte qu'aujourd'hui, tous les acteurs qui doivent intervenir dans ce système en information, en communication et en mobilisation sociale puissent être vraiment activés afin de pouvoir vraiment lever ces obstacles et peut-être donner d'autres orientations qui pourront régler toutes ces questions. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Alors, un jeune. Oui, madame.
Bonsoir tout le monde. Mon nom est Mbacho Diaw et je travaille à l'ONG RAS qui a participé à l'organisation de cet événement. Moi, j'ai une autre préoccupation. Et les jeunes qui ont l'information et qui n'adoptent pas les comportements qu'il faut quand il le faut, qu'est-ce qu'on doit faire avec? Parce qu'on s'est rendu compte en faisant récemment des travaux avec les jeunes des CCIA, des jeunes de plusieurs régions du Sénégal, que la plupart des jeunes a l'information à sa disposition. Mais il y a des contraintes. Pourquoi? Quand Ami est partie, quand elle a su qu'il a fallu prendre la pilule le lendemain, elle a pris la décision d'y aller, mais elle n'a pas pris cette pilule qui lui a amené tous ces désagréments. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Parce que moi, je pense que de plus en plus, les jeunes ont accès à l'information. Peut-être qu'il y a l'information dont ils disposent.
L'information vraie.
Ils disposent de l'information vraie. Parce que moi, je ne vais pas me référer à l'histoire d'amis, mais juste dans mon entourage. Je fréquente des gens qui ont des informations justes, qui ont fait l'école, qui côtoient des gens qui peuvent leur donner de bonnes informations. Mais au moment de l'acte sexuel, au moment de prendre des décisions importantes sur leur sexualité, elles passent à côté. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour ces gens-là éclairés, qu'on doit amener à adopter, à faire adopter des comportements sûrs et responsables?
Qu'on
en discute. Que ce ne soit pas un point global, mais qu'on puisse intégrer cela dans les discussions.
D'accord. Merci. On y revient tout à l'heure. C'est quelle remédiation? Oui, doyen.
Je suis professeur de sciences de la vie et de la terre de formation, qui a exercé le métier pendant 26 ans, avant de faire 9 ans au ministère de l'Éducation nationale, où j'ai fini ma carrière. Je crois qu'à y regarder de près, on va penser plutôt du côté du socio-culturel. Quel que soit le blocage qu'on prendra, en réfléchissant, on verra que ce blocage-là a un enracinement sur le niveau socio-culturel. L'information, on n'en parle pas au niveau des familles. Pourquoi? Mais c'est une question de culture, c'est un tabou. On n'en parle pas, c'est ça. Et ce sont ces tabous-là qu'il faut combattre. Au niveau du système éducatif, je parle en connaissance de cause. Dans les programmes d'enseignement, en tout cas jusqu'au moment où je quittais les classes, il y avait en classe de 4e une bonne partie du programme qui était consacrée à la reproduction. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, l'enseignant n'est pas un technicien de la santé. Il y a des informations qu'il ne peut pas avoir. Mais ce qu'il devrait faire en ce moment-là, c'est quoi? Sachant que enseigner, à mon avis, c'est résoudre un problème. Le problème est là, il faut le résoudre pour les jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller chercher l'information au niveau des personnes qui sont formées pour ça. Donc, aller se former. Mais l'information, elle est là. Parce que même si nous regardons le cas d'Ami, déjà, quand elle a eu son rapport, son réflexe, c'est quoi? Aller chercher la pilule du lendemain matin. Donc, elle avait déjà l'information. Elle sait également où aller la chercher. Donc, ce n'est pas un problème d'information. La réaction qu'il y a eu au niveau des structures d'accueil, c'est une réaction qui est tout à fait normale, compte tenu de nos valeurs socio-culturelles. Vous voyez, on ne peut pas comprendre qu'une jeune fille à un certain âge, qu'une fille qui n'est pas mariée, puisse penser à des rapports sexuels et davantage à avoir un enfant. Donc, c'est ça le blocage. Le blocage numéro un, donc, à mon avis, c'est le côté socio-culturel.
Mais ce n'est pas. Excusez-moi, doyen. Comme vous avez parlé de votre expérience dans les écoles, vous-même, dans votre famille, vous procédez comment? Communiquer avec vos enfants.
Mais avant tout, je suis un Sénégalais comme vous, monsieur.
Ouais.
Donc, je subis les tabous comme vous.
Ah.
Je connais l'information. Dans ma classe, je livre l'information, la vraie information.
Oui, et à la famille.
Mais à la famille, vous voyez, c'est ça le problème.
C'est-à-dire.
C'est ça le problème. Non.
C'est-à-dire
qu'au niveau de ma famille.
Oui, s'il vous plaît.
S'il vous plaît,
oui.
Ma
dans la famille.
Et même voir mes croyances religieuses m'interdisent peut-être d'aborder certains sujets avec mes enfants. Tout en sachant que ce n'est pas normal. Mais c'est un combat qu'il faut mener. C'est
d'accord. Non, je pense qu'on est sur la bonne voie. On est d'accord qu'il y a des obstacles, mais on est d'accord qu'on doit faire le sursaut nécessaire pour rompre avec certains stigmates et évidemment communiquer au sein de nos familles. Hein? On va passer la parole aux deux qui sont là devant. Oui, un homme et une femme, un jeune et un moins jeune.
Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis travailleur social. Je suis au niveau du ministère de la Femme. Je viens avec ma collègue, Mme Soukaina, représenter le ministère de la Femme à cette rencontre que nous magnifions.
Merci.
En tant que travailleur social ayant servi pendant plus de 6 ans en milieu rural, je pense qu'il est important de s'arrêter sur la jeune fille qui est en milieu rural. Parce qu'en milieu rural, il y a beaucoup de jeunes filles entre 18 et surtout à partir de 17-18 ans. Elles sont mariées. Donc, elles sont dans les liens du mariage. Et quand on sait que notre société, c'est une société phallocratique, le pouvoir de décision n'appartient pas à la femme. Donc, cette jeune femme qui est dans le mariage, qui a envie de bénéficier de ce service de PF, et le pouvoir de décision ne lui appartient pas, ça appartient à son mari. Et plus loin, la belle-mère a son mot à dire dans cette vie conjugale. Rien que, je ne parle pas de PF, rien que pour aller faire... Donc, sa CPN, ça pose problème. quand elle veut parler de planification familiale, voyez tout ce qu'elle va subir comme pesanteur socioculturelle. Donc c'est important donc, de s'arrêter sur ces pesanteurs socioculturelles. Autre obstacle, je parlerai de l'insuffisance de la multisectorialité dans la lutte ou dans la promotion de la PF. La promotion de la PS, la santé à elle seule ne pourra pas réussir ça. Je pense que nous tous, nous sommes d'accord et vous allez en convenir avec moi. Si le Sénégal a fait de réels bons, de grands résultats dans le cadre du VIH, c'est dans le cadre de la multisectorialité. Donc si aussi dans la promotion de la PF, nous voulons avoir de bons résultats, il faut l'implication de tous les secteurs.
Merci. Merci beaucoup. Je vais retourner vers la salle pour prendre... Monsieur William de l'UNESCO et Madame Eugénie Nian de l'OMS pour boucler la boucle. Ouais.
Merci beaucoup. C'était juste pour féliciter l'Alliance, féliciter l'ensemble des jeunes qui se sont vraiment investis aujourd'hui pour organiser le panel. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je suis très, très séduite par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes passé à travers une cassette qui a tout retracé, qui a vraiment souligné, identifié tous les obstacles. En matière de stratégie, je dis encore une fois, pour finir, que l'OMS est derrière l'État du Sénégal. Comment ? Il y a une stratégie globale, mondiale, qui est là. Vous savez qu'on n'a pas atteint les OMD. On ne les a pas atteints. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une cible qui est là et qu'on laisse en rade. On veut lutter contre la mortalité maternelle, contre la mortalité néonatale. Mais en réalité, est-ce que réellement la cible s'arrête à la mère ? Non. Il y a une cible qui est là, qui est victime de tous ces aspects-là et qu'on laisse en rade. Et c'est pourquoi, à partir des OMD, on part maintenant de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, qui sont les ODD. Et vous savez que c'est l'ODD 3 qui prend en compte la santé. Et dans l'ODD 3, je vais juste, peut-être à titre de contribution, peut-être vous lire un peu qu'est-ce que c'est que l'ODD 3. Je pense que les jeunes en ont besoin, même si vous pouvez le trouver dans Internet. Je vais quand même partager ça avec vous, que vous compreniez pourquoi actuellement l'OMS est fixée sur la cible à nos jeunes. Alors, l'ODD 3 dit qu'il faut permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être à tous et à tout âge. Donc j'insiste sur tout âge. Tout le monde doit avoir la santé, l'accès aux services de manière équitable et à tout le monde. Ensuite, toujours dans l'ODD 3, vous avez la cible 3.7 qui dit que d'ici 2030, il faut assurer l'accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale, d'information et d'éducation, et la prise en compte de la santé procréative dans des stratégies et programmes nationaux. Je pense que ça dit tout. Et le Sénégal est dans cette voie. Parce qu'il y a eu beaucoup d'engagement. Il y a eu des conférences internationales. Les gens ont pris des engagements. Et le Sénégal est dans une très bonne voie. Et nous sommes en train d'accompagner récemment, juste pour rassurer madame, que les CCA sont en train d'être équipés. Les bailleurs sont à côté de l'État du Sénégal pour favoriser et faciliter l'accès des services de santé. L'OMS qui est là pour la santé est à côté de l'État du Sénégal qui fait encore une fois beaucoup d'efforts. Les CCA, c'est important. Les collectivités locales, monsieur le maire, je sais que la santé est une compétence transférée. Les gens font énormément d'efforts. Et encore une fois, je vous félicite parce que je sais que c'est de ça dont on a besoin. Que tout le monde s'engage dans la communication. Donc je pense que pour ne pas trop monopoliser la parole, j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup d'informations à donner. Mais encore une fois, j'encourage et je félicite l'initiative pour tous les gens qui ont pris en tout cas la peine de forcer. Merci beaucoup.
Je suis honoré de prendre la parole. Je suis William Gay, je travaille au bureau UNESCO de Dakar, au secteur de l'éducation. C'est vrai que l'information est importante et il faut continuer à la diffuser, mais elle n'est certainement pas suffisante. Ce qui devrait compter davantage, c'est le comportement. C'est promouvoir l'information pour qu'il y ait un changement de comportement. Nous avons eu dans le cas d'Ami qui a eu le magnifique témoignage qui a retracé une série d'obstacles à la jouissance de ses droits. On se rend compte qu'elle avait l'information, elle a même manifesté le bon comportement, mais les obstacles étaient de nature différente au point où finalement elle n'est pas allée au niveau de poser l'acte nécessaire qui lui aurait évité la grossesse non désirée qu'elle a eue. Donc il est important d'arriver à développer l'estime de soi chez les jeunes, la capacité finalement à faire le bon choix. Et là, l'information ne suffit pas. On passe par là, mais il faut aller davantage, il faut aller plus loin. Et c'est en cela que je crois même le secteur de l'éducation aujourd'hui a évolué et on n'est plus dans les approches qui insistent sur les objectifs, mais dans les approches par les compétences où on part des situations problèmes Et c'est face à ces situations problèmes qu'on voit la réaction du jeune et qu'on développe le comportement nécessaire pour résoudre le problème auquel ils font face. Et dans la vie en fait est une série de situations et il faudrait donc pouvoir donc développer des comportements positifs dans le domaine. Je vous remercie.
Merci. On va peut-être terminer maintenant par un tour de table sur qu'est-ce que vous pensez être, face à ces obstacles, les stratégies les plus adéquates. Alors, qui veut commencer? Oui, allez-y, Djouma. Ensuite, Madame Thiam.
Merci. Moi, je pense que en écoutant les uns et les autres, d'abord, on a eu à déceler que certains disaient la volonté politique. Mais je pense qu'il y a un fort engagement politique quand même. Parce que l'État du Sénégal, le ministère de la Santé a eu à ériger un bureau en division de la santé de la reproduction des adolescents et des adolescentes jeunes. Et par rapport à cette division, on a mis en place des standards des services de santé. Donc moi, je pense que c'est ces standards-là qui doivent être pris en compte à tous les niveaux et développés à chaque niveau. En dehors de ça, il y a eu l'identification et la formation des pères éducateurs à chaque niveau. Et il fallait que ces pères éducateurs puissent copter les pères et parler de la SRH. Et avec les Badjanogor, quand même, il y a la médiation, parler avec les parents. Moi, je pense qu'il faut quand même des stratégies qui sont axées sur l'éducation à la santé sexuelle et de la reproduction à l'école et dans le secteur informel. Parce qu'il y a les non-scolarisés, il y a les déscolarisés. Il faut aussi que les centres conseils ados arrivent à mieux promouvoir l'information plutôt que la prise en charge. Parce que les centres conseils ados, ils sont bien adaptés pour faire, comme le nom indique, centres conseils ados. Mais on se rend compte qu'ils sont en train d'entrer dans la mouvance de la prise en charge.
Merci beaucoup. Merci, merci. On va enchaîner avec vous. Est-ce que vous êtes également sensible au fait que les centres ados doivent juste se concentrer sur le conseil et pas des prestations?
Je pense qu'il faut beaucoup de conseils, un peu moins d'offres et beaucoup de référencement, d'orientation vers les services les plus adaptés. Et pour moi, cette information est essentielle, puisque si on a des centres conseils ados, on a des experts qui sont là, des spécialistes qui sont là et qui peuvent donner vraiment l'information vraie. Comme on disait tout à l'heure, l'information est souvent biaisée. On a l'impression qu'on a donné toute l'information aux jeunes, mais on n'a pas donné l'information vraie. Parce que le jeune, quand on doit lui donner l'information, il faut aussi lui dire comment est son corps, comment son corps réagit dans une relation homme-femme. Et ça, c'est essentiel. Un adolescent doit savoir qu'au moment de la puberté, le corps change et que face à un garçon ou un ado, il y a des comportements. Dès qu'on y arrive, quelle est la réaction du corps? Il faut dire la vérité, il faut tout dire à l'adolescent. Sinon, c'est des risques de grossesse, parce qu'après on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas adopté le comportement qu'on attendait? Il a ou elle a toute l'information, mais le comportement n'est pas là, parce que tout simplement, on lui a pas dit que quand on est devant un garçon, à un moment donné, on frissonne, à un moment donné, on peut se lâcher, et c'est là où il faut demander au garçon de prendre son préservatif, ou bien de voir, ou bien de lui dire, attends, pour une prochaine fois, le temps qu'on soit mieux préparé. Mais ça, on ne le dit pas aux jeunes, on ne le dit pas aux ados. Et il faut que le jeune puisse connaître davantage son corps. Et ça, c'est essentiel. Comment il réagit, qu'est-ce qui lui arrive, les sueurs, etc., etc. Tout. Et c'est pour ça que je disais, je soufflais au professeur Fall en lui disant, c'est l'information vraie. Hein, c'est ça qu'il faut. Et éviter de faire la morale. Donnons l'information sans faire de la morale et laissons les jeunes qui ont l'information vraie décider. Ils peuvent décider comme elle a dit, donnons-leur l'information et on verra si l'information est bien distillée et bien donnée, le jeune il peut avoir un comportement responsable. Les parents devraient aussi avoir l'information et c'est là où il faut briser les tabous sur la sexualité. Brisons les tabous sur la sexualité, donnons l'information et communiquons davantage avec les enfants. Donc la communication intergénérationnelle est une communication qui est essentielle. Mais je voudrais aussi rajouter quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est qu'on puisse généraliser surtout, disons, l'éducation sexuelle dans les établissements. Mais pas une éducation sexuelle comme ça que l'on donne, mais qu'on fasse une éducation à la sexualité et à la santé de la reproduction, mais de façon différenciée. Différenciée en fonction de l'âge et en fonction aussi du sexe, parce que garçons ou filles, c'est vrai qu'ils doivent avoir la même information, mais en fonction de l'âge, on doit avoir des informations qui sont différenciées.
Oui, merci. Je pense que vous avez raison d'insister sur cette dimension information Mais du côté des sages-femmes, pensez-vous que les Badianougor ou tous les relais communautaires aujourd'hui agissent également en direction de cette cible que sont les jeunes?
Merci beaucoup. Je viens d'abord vers les prestataires. Parce que qui dit santé sexuelle, comme l'a dit Marem, les premières sages-femmes formées avaient une formation en sexualité humaine. Ça date de bientôt 20 ans. Aucune sage-femme actuelle ne peut vous parler de sexualité humaine. Donc ce serait difficile pour la sage-femme même de discuter avec la cliente les problèmes de sexualité. Je pense qu'il faut commencer d'abord par ça, pour qu'on ait des éducateurs, des spécialistes en santé sexuelle, en santé de la reproduction, pour qu'on puisse former d'abord les prestataires qui alors vont former les Badianougor et les relais. Mais moi je veux également revenir sur les stratégies. Il faut le recrutement du personnel qualifié. Il y a l'insuffisance des structures d'accueil et d'offres qui sont là également et qui posent problème. Je n'ai pas entendu parler des obstacles religieux. Mais ça fait partie des obstacles les plus importants au Sénégal, la religion.
Je vais m'adresser à vous. Madame Mariam d'abord.
Merci. Par rapport au Badianougor, j'ai aimé le ministère de la Famille qui a en tout cas fait quelque chose pour les Nidiayougor. Oui, ils ont fait une expérience réussie pour les Nidiayougor. Et je pense que c'est une expérience qui me force à dire qu'il faut renforcer l'approche multisectorielle, comme vous l'avez dit. Elle est très importante. Nous avons eu à être dans une restitution de 3 études multisectorielles avec des approches très pertinentes. Donc l'approche-là, il faut le renforcer. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, l'impact de ce personnel communautaire dans la prise en charge de la santé sexuelle et reproductive n'est pas encore analysé. Et comme vous êtes de ce milieu-là, je pense qu'il faut l'analyser. Parce que rien ne sert d'avoir des stratégies qu'on n'analyse jamais l'impact. Et donc, ils ont fait le Badianougor qui a donné la preuve de son efficacité. Les Badianougor, on connaît ce qu'elles font comme travail. Vraiment, elles travaillent d'arrache-pied. Mais est-ce que ces Badianougor seront enclins de rentrer dans la société pour parler de la PF chez les jeunes? Même si elles sont formées, parce qu'elles ont les rudiments. Même avec l'approche de la PF, elles ont souvent des problèmes dans les couples. Elles s'accrochent surtout aux femmes, mais rarement aux couples unis, quand bien même qu'on a des résultats. Mais l'autre chose qu'il y a, c'est que les programmes qui viennent, un programme fait tout pour avoir des résultats. Mais le problème qui se pose, c'est la pérennisation des programmes. Et je pense que tous les programmes que nous allons prendre comme stratégie, en tout cas, correctrice, il faudrait que ça soit des programmes du ministère de la Santé, peut-être appuyés par les ONG, mais qui soient pérennes. Voilà, je vous remercie.
Donc, merci, professeur. À Agdev, on a eu quand même à accompagner des acteurs communautaires qui aujourd'hui sont en train de nous aider à faire comprendre aux populations, aux jeunes, à faire la promotion de la planification familiale, surtout avec les jeunes. Nous, on a eu à initier un programme multisectoriel au niveau de Djourbel, Bambé, et on a eu à quand même toucher des secteurs qui n'étaient pas enrôlés dans la planification familiale, notamment des jeunes dans les centres d'enseignement technique qui aujourd'hui ont aidé. Et on a fait une étude situationnelle, une analyse situationnelle, qui nous a montré qu'il y avait un problème de manque de communication qui se posait à ces cibles. Donc, quand on fait passer l'information, véritablement, on fait booster quand même le TPC, dont on veut aujourd'hui qu'il soit à 45%. Je ne vais pas terminer sans pour autant parler des cadres. Aujourd'hui, la société civile a eu quand même à mettre en place des cadres de rencontre. Ces cadres de rencontre, c'est les cadres de l'organisation de la société civile, à travers l'organisation d'ateliers régionaux de repositionnement de la planification familiale qui englobait environ 10 pays de l'Afrique de l'Ouest, où on a invité quand même les jeunes, à travers les jeunes ambassadeurs, à aujourd'hui s'impliquer, à s'approprier certains aspects promotionnels de la planification familiale. Et ces jeunes aujourd'hui ont eu à créer des cadres tels que campagne de Saint-Valentin sans grossesse non désirée. Non, ils le font au Mali, au Sénégal même. Peut-être qu'il y a certains de ces jeunes qui sont là avec nous. Donc, c'est des cadres qui nous ont permis aujourd'hui quand même d'impliquer les jeunes.
Merci je vous beaucoup. Remercie. Madame Diallo, on va terminer avec vous.
Ok, donc pour terminer, en fait, je ne vais pas trop revenir sur ce qui a été dit. Mais moi, je vais essayer de répondre à certaines questions qui ont été posées par l'assistance. Il y a la dame de Raes qui a posé la question de savoir pour les jeunes qui ont l'information, mais qui s'adonnent malgré ça à certains comportements, je dirais, entre guillemets, irresponsables. Vous savez, il y a le problème de l'estime de soi qui est vraiment problématique pour les jeunes. Il y a des jeunes qui ont l'information, certes, mais ils ne peuvent pas dire non à un prétendant ou à un copain ou juste à un jeune homme. L'estime de soi, c'est important dans tout ce qu'on fait. Le développement personnel, dans tout ce qu'on fait, c'est important. Il ne suffit pas juste d'avoir l'information. Je connais l'ASR, j'ai des informations. Mais sur moi, même si je ne peux pas m'affirmer, ça pose problème. Donc, de plus en plus, on se bat pour être au niveau décisionnel. Parce qu'au niveau de mobilisation et de décoration, on y est, mais on ne veut plus rester là-bas. Parce que quand nous, on sera au niveau décisionnel, que certaines politiques vont changer. Et on s'attelle à ça.
Merci, je pense que vous avez dit le message important. Il y en a eu plusieurs, mais le plus important était de dire orientons les services vers les jeunes, les ados, vers ceux qui sont concernés et faisons en sorte que ces services soient portés par d'autres jeunes. Ou alors, si c'est des adultes, ça soit des adultes qui ont le mental de Madame Thiam, qui sont le mental de jeunes, qui peuvent parler le langage des jeunes, qui peuvent se faire comprendre par les jeunes. C'est heureux que vous ayez suivi aussi ce que monsieur le directeur de cabinet a dit tout à l'heure, une offre multisectorielle, une gouvernance socio-sanitaire qui reflète cette multisectorialité. Il y a des situations à risque que les enfants peuvent subir, les jeunes peuvent subir. Vous avez vu dans le cas d'Ami, elle a quand même développé par la suite une résilience suffisante pour se prendre en main. Et ça, ça passe par l'estime de soi. Et c'est très important à considérer. Merci beaucoup à tous d'avoir fait le déplacement, de participer à cette rencontre.
Je viens l'applaudir. Merci, Dr. Abdou Salam Fall. Mesdames, messieurs, chères participantes, chers participants, après de fructueux échanges, j'ai l'honneur, au nom de l'Alliance, de remercier l'ensemble des panélistes. Vos contributions ont été très importantes et c'est des contributions qui vont être utiles pour le Sénégal, pour la jeunesse et pour toute l'Alliance. Je voudrais aussi remercier le public. Le public représenté par les ministères de la femme, de la famille, de l'enfant, le ministère de la jeunesse, le ministère de la santé, notre ministère de tutelle, les collectivités locales de Mboro, de Mbour, de Rufisque Est, mais aussi de Pékin Nord, des partenaires techniques et financiers comme OMS, comme UNESCO. Nous les remercions tous et nous remercions tous les gens qui sont venus ici et les statuts pour lesquels aussi ils sont venus. Merci beaucoup d'être venus à ce débat. Nous voudrions aussi remercier des gens qui ne sont pas avec nous, mais qui ont beaucoup travaillé pour la réussite de ce débat d'aujourd'hui. Je veux citer tous les membres de l'équipe Equipop. Nous sommes ici toutes et tous d'accord que la planification familiale est un élément structurant de nos sociétés et qu'il est important que les jeunes puissent en bénéficier afin d'avancer vers l'avenir de façon sereine. C'est pour cette raison que l'Alliance Droit et Santé et ses membres au Sénégal sont heureux de lancer la campagne Génération Planification Familiale Ensemble Choisissons l'Avenir. Cette campagne Joindre les voix à Génération PF et Alliance Droit de Santé demande que les gouvernements soutiennent activement et concrètement la planification familiale des jeunes à travers la prise en compte des besoins spécifiques des jeunes et adolescentes dans les politiques et programmes en matière de planification familiale, l'amélioration de la qualité des services de PF pour les jeunes et l'assurance de leur gratuité, la mise en place de l'éducation complète à la sexualité pour les jeunes, la promotion de l'abandon des mariages précoces, la participation systématique des jeunes dans les politiques et les programmes qui les concernent et dans les espaces de prise de décision sur les questions de PF. Mesdames, messieurs, chers participants, nous vous remercions.